Bonjour, bienvenue sur Les Petits Plus Zen, le podcast pour faciliter et savourer sa vie en famille. Je m'appelle Séverine, je suis facilitatrice en parentalité après avoir été 22 ans professeure des écoles en maternelle REP+. Chaque semaine, je te propose ici des pistes et des thèmes approfondis sur la petite enfance, l'éducation et la communication pour que tu retrouves le plaisir des relations familiales sereines et épanouies. Une de mes missions est de t'aider à mieux comprendre et apaiser les émotions de chacun pour installer un équilibre entre tes besoins personnels et ceux de ta famille et enfin retrouver du temps pour toi. Je te partagerai aussi mon expérience en classe de maternelle, des découvertes apprises en formation et des outils inédits et actionnables facilement que j'ai créés au fil du temps à l'école et à la maison. Pour ne manquer aucun épisode, abonne-toi s'il te plaît sur ton application de podcast préférée et participe généreusement à la diffusion de mon travail en laissant un avis et une note de 5 étoiles. Pour plus de contenu, d'inspiration et de motivation, retrouve-moi aussi sur Instagram, Facebook et Clubhouse sous le nom Les Petits Plus Zen. Sur ce, je te souhaite une belle écoute.
Bonsoir à tous, bienvenue sur ce live de l'appli BioMy, ma grossesse tendresse. On va parler grossesse aujourd'hui, évidemment, postpartum, conception, désir d'enfant, deuil périnatal aussi. On va aborder la reprise du travail et on va aborder tous ces processus qui sont des processus corporels. Pour ça, il y a le médical, voire le chirurgical, mais ce sont aussi, comme je dis souvent, des processus émotionnel. Et pour ça, il y a les professionnels du bien-être périnatal. On va parler émotions ce soir avec Séverine Feiss, qui est une facilitatrice sur ces sujets émotionnels et parentalité, qui va nous expliquer comment elle fonctionne et on va pouvoir parler longuement de ces sujets des émotions et pourquoi c'est si impactant, si utile, si important de les prendre en compte, ces émotions, tout simplement. Bonsoir Séverine.
Bonsoir Catherine, bonsoir à tous.
Joli sourire, belle énergie. On se rejoint sur le sujet des émotions, toi et moi, notamment. Tout ce continuum émotionnel du désir d'enfant, de la grossesse, de l'arrivée à la maternité, de l'accouchement, du séjour à la maternité, du postpartum, du biberon, de l'allaitement, du manque de sommeil, du baby clash, tout ça, de la reprise du travail et après de l'éveil de l'enfant, qui sont autant d'étapes avec des grandes joies, des immenses bonheurs, un peu de tension, beaucoup parfois, des petits pièges, des choses qu'on peut anticiper. Et puis alors, une montagne de vécus différents, voire gens qui rient, gens qui pleurent, un saut d'une émotion à l'autre, d'un instant à l'autre. Sans compter la fratrie, qui peut-être est déjà là, et qui complexifie encore un peu la chose. Alors tout ça, c'est ton domaine, le domaine de la famille, des émotions. Est-ce que tu peux te présenter ?
Avec grand plaisir. Moi, j'étais enseignante pendant 22 ans en maternelle REP+. J'ai commencé par des grandes sections, moyennes sections, petites sections, et j'ai fini par le dispositif des moins de 3 ans. Qui m'a vraiment fascinée, les tout petits de 2 ans qui arrivaient dans la classe. C'était une sorte de passerelle entre la crèche et la collectivité scolaire. Et j'ai aimé ce contact avec les familles. J'ai commencé à mettre en place des ateliers de parentalité. Et j'ai fait ça pendant les 5 dernières années dans l'éducation nationale. Et maintenant, je suis à mon compte en libéral. Et je suis donc, comme tu l'as dit, facilitatrice en parentalité. Je me base sur toute mon expérience en classe de relationnel avec le développement de l'enfant, donc intellectuel au début. Puis très vite émotionnel parce que je me suis dit que les compétences scolaires étaient quand même bien assises sur ce que les enfants ressentaient et comprenaient de leur développement à eux et comprenaient de ce qu'on attendait. Donc dans la communication entre l'éducation nationale et le parent, j'ai décortiqué tout ça et j'ai créé plein de nouveaux outils pour accompagner les mamans et les papas qui venaient entre deux portes, hein, tu connais ça. On vient voir la maîtresse et on lui demande « Mais comment vous faites ? Parce que moi, à la maison, ça se passe comme ça. Et vous, dans la classe, comment ça se passe ?» Donc, on était en échange avec les familles. Et j'ai beaucoup aimé ce rôle. Et c'est ce que je fais maintenant à plein temps. Et j'adore ça.
Comme je comprends, je fais une toute petite parenthèse. Tu sais qu'avant, j'ai créé une autre entreprise que j'ai développée pendant presque une décennie avant de la céder à un grand groupe. C'était une société de micro-crèches. Et pareil, le entre-deux-portes des parents qui viennent nous solliciter, nous poser des questions, nous demander des conseils en disant oh, « C'est incroyable ce que les dames de la crèche ont réussi à mettre en place, mais comment on fait si on peut répliquer ça à la maison ? Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ?» Et ce besoin de gérer aussi l'émotion du parent aussi, qui parfois venait me voir avec ma casquette de doula en disant « Catherine, est-ce qu'on pourrait vous parler ?» Pas en tant que gérante de la crèche, mais en tant que doula, voilà, parce qu'en fait, il y a tellement d'autres choses qu'on aurait envie d'aborder. Je ferme ma parenthèse.
Et c'est en tant que maman, parfois, qui me demandait, entre mamans, Et vous, est-ce que vous avez fait ça avec vos enfants? Parce que le contexte est différent en crèche, le contexte est différent dans l'école. On a une stature, on a une posture de professionnel. Alors que quand on est nous-mêmes avec nos enfants, certes, on peut appliquer les outils, mais le côté affectif va jouer beaucoup. Mais les colères, on fait comment? Le sommeil, on fait comment? Les disputes avec le papa, la répartition de la charge mentale, on fait comment, Séverine? Donc, ça dépassait légèrement le rôle de l'éducation nationale, mais comme le besoin était là, comme la confiance était installée, il y avait une sorte déjà d'alliance avec les parents qui voyaient au quotidien leur enfant évoluer, qui se disaient, bah, si on peut avoir d'autres pistes pour la famille, prenons. Parce que maintenant que le lien de confiance est installé, c'est tout l'intérêt.
Alors, avant qu'on rentre dans les sujets, présente-nous aussi ton podcast.
Oui, avec plaisir. Et bien, tout ce que je disais entre deux portes, je me suis dit, c'est dommage qu'il n'y ait que les parents de Nanterre qui en profitent, parce que je le disais aux parents de Nanterre de ma maternelle. Donc, je me suis dit que je vais encapsuler tous ces sujets-là. Donc, au début, c'était bien sûr comment l'enfant apprend, les fonctions exécutives, pourquoi le livre est important dans la vie de l'enfant, comment est-ce qu'on peut retirer la couche avant la première rentrée à la maternelle. Donc, c'était des sujets plutôt éducatifs au début. Et puis, petit à petit, le podcast a grandi. Là, ce matin, c'était l'épisode 113 qui parle du 100% bien-être des familles, des mamans. Et ce podcast, c'est donc les clés que j'ai apprises sur le terrain, les clés que j'ai apprises en formation, donc de coach de vie, de communication non violente et de leader empathique aussi. Parce que j'ai fait des formations sur l'hypersensibilité, sur l'accueil des émotions précisément. Donc, c'est vraiment ça qui me porte au maximum maintenant. Et dans le podcast, je vous donne déjà plein de clés. Il s'appelle Les Petits Plus Zen, comme mon compte Instagram.
Avec ta voix que j'adore, tu le sais, on en a déjà parlé plusieurs fois. Et qui porte et qui est ô combien importante quand on est en train de parler d'un podcast. Alors, on parle des familles, on parle de la parentalité. Il y a un sujet, un autre sujet parmi les sujets sur lesquels on se rejoint. C'est le fait de dire, un nouveau-né, s'il arrive dans le monde, c'est beaucoup mieux s'il est accueilli dans un environnement serein et joyeux. Parce que, à partir de là, va se développer toute sa représentation du monde. Et du coup, l'émotion du parent dans tout ce parcours grossesse jusqu'à la naissance et le postpartum est ô combien impactant sur l'enfant. Qu'est-ce que tu penses autour de ça et comment toi, tu peux conseiller, guider, orienter ou accompagner les futurs ou jeunes parents sur ces sujets?
Les mamans, quand elles découvraient la maternelle, découvraient ce monde de la socialisation parfois et étaient directement sur « Ah oui, mais en fait, il faut que je fasse confiance à un autre adulte que moi. » Et ce serait pareil pour la première fois à la crèche. Et donc, cette notion de la séparation, cette notion de confier ce qu'on a de plus cher, hein, notre petit bout, notre petite tête qu'on a couvée parfois, alors au moins 9 mois, mais parfois plus quand on a le congé parental, quand on a 1 an seul avec lui. Et là, le confier, elles étaient démunies, elles avaient l'impression de l'abandonner. Donc, ces sentiments-là, de pouvoir confier son enfant, d'être en confiance, ça part aussi de notre capacité à voir comment on se sent, à voir comment on a l'émotion intérieurement. Est-ce qu'on est confiant dans le monde extérieur? Est-ce qu'on est confiant qu'il a déjà des ressources, que la personne en face va être capable de nourrir ses besoins et puis de lui apporter tout ce dont il aura envie, besoin, et que la communication va s'installer? Tu le disais très bien, si on est au clair avec nous comment on fonctionne avant l'arrivée de l'enfant, quand l'enfant sera là, on sera moins parasité par nos propres ressentis et nos propres émotions et on pourra plus se concentrer sur ce qu'il vit lui. Est-ce que lui, il est en colère? Est-ce qu'il est triste? Est-ce qu'il est frustré parce qu'il n'y arrive pas? Au début, on ne saura pas détecter tout ça si on ne l'a pas fait sur nous. Et comme on est aussi en couple, je nous invite tous à faire ce travail aussi avec le partenaire, à apprendre à décoder comment il se sent, à apprendre à décoder ce dont il a besoin, parce qu'à force de décoder tout le monde autour de nous, on va muscler cette compétence, on va vraiment être au taquet. Et avec notre enfant, on sera beaucoup plus calme et on pourra le co-réguler émotionnellement et puis dans notre comportement. Si on est plus calme les deux parents, l'enfant vivra dans un cocon, hein, comme tu dis souvent, dans une ambiance beaucoup plus sereine. Et ça n'empêchera pas les émotions fortes, ça n'empêchera pas les imprévus. Mais on saura les aborder comme si on savait déjà nager, ben ce sera plus facile si on tombe du bateau. Alors que là, on peut imaginer que si on n'a pas fait du tout de travail autour des émotions avant d'être parent, c'est comme si en pleine mer, on tombait du bateau et qu'on ne savait pas nager. On va être forcé, hein, de se dépatouiller, on va bidouiller. Mais si on a déjà appris à nager, si on a déjà des brassards de secours, on pourra mieux nager en pleine mer.
On dit souvent, parent serein, enfant serein. C'est tellement vrai. Et on l'observe beaucoup en crèche, tu dois encore le voir à l'école maternelle. Même à l'adolescence, on pourrait en faire tout un roman, ça ne s'arrête jamais. D'où l'importance de créer cet environnement le plus sécure, pourrait-on dire en bon anglo-saxon. Je nuance quand même mon propos, parce qu'il ne s'agit pas non plus, voilà, d'installer une culpabilité sur les épaules des parents en disant « tu dois », avec le doigt, hein, « tu dois absolument être serein, sinon tu vas mal faire ton travail ». Non, le sujet n'est pas là, mais il y a, voilà, l'art de doser et effectivement de pouvoir faire un moment d'introspection, alors soi-même et puis en couple aussi. Tout ce chemin vers la grossesse déjà, qui parfois n'est pas immédiat, n'est pas simple. Il y a beaucoup de choses qui bougent et qui remuent. On pourra zoomer tout à l'heure, si tu veux bien, sur chacune de ces étapes-là. Même pendant la grossesse, ça nous ramène tous et toutes face aux parents qu'on a eus. Et qu'on en soit conscient ou pas, ça vient remuer beaucoup de choses en réalité. Ça nous remet des choses au visage, ça nous remue des choses qu'on avait enfouies ou tout simplement oubliées. Et ça bouge. Il y a des choses qui bougent. Et puis, quand on devient maman, quand bébé est là, bah, il y a nos mamans et nos belles-mamans. Et donc, là encore, vont se jouer des choses, parfois inattendues, parfois surprenantes, parfois géniales. Et tout ça bouge, mais tout ça nous fait bouger, évoluer. C'est un processus, celui de la matrescence, de l'éclosion de cette nouvelle femme qu'on devient, qui devient aussi une maman. Et donc, tout bouge, dans tous les sens. Ça vaut le coup d'être accompagné, d'en parler, d'être préparé un petit peu. Comment
D'autant
tu
qu'on
vois
vend
ça,
la
toi?
sérénité dans tous les programmes actuellement et que c'est presque une injonction à la sérénité. Quand on propose aux gens d'être plus serein pour l'enfant, ça peut rajouter une couche de culpabilité. Donc
C'est ça.
l'idée de ne pas être serein pour être la meilleure maman possible, mais être serein parce que pour nous, ça va être une dépense d'énergie moindre. Parce que
C'est ça.
plus on va se comprendre, moins on va être débordé par notre émotion quand elle arrivera, parce qu'elles vont continuer à arriver, nos émotions. Hein. C'est pas on appuie sur un bouton et on est serein pour toute la vie. Même si vous avez plusieurs programmes en cours, même si vous avez une thérapeute, une psychiatre et tout ça ne finit jamais l'émotion. Ça ne finira que quand on sera vraiment mort. Du début de la grossesse jusqu'à ce que notre enfant parte étudier, les émotions, elles ne s'arrêteront pas, en fait. Et l'idée d'avoir des clés, c'est d'être moins démuni quand lui-même, notre enfant, est débordé par son émotion. Parce que sinon, il y a une sorte de contamination émotionnelle. C'est l'épisode 71, pour ceux qui veulent écouter ce problème vraiment spécifique, c'est que quand notre enfant est aux prises avec sa flamme d'émotion à lui, et que nous, on a une autre flamme d'émotion dans notre cheminée des émotions, on ne sait plus comment agir, on ne sait plus comment réagir. Et on pourrait s'emporter, on pourrait rendre l'autre responsable de notre émotion. Et c'est là où on peut couper, quand on a la conscience que l'émotion de notre enfant n'a rien à voir avec nous et que notre émotion à nous n'a rien à voir avec notre enfant. Et ça se démêle, qu'on met le déclencheur d'un côté, on met les pensées étincelles de l'autre, on met la reformulation des circonstances en troisième. Il y a tout un processus que je fais avec mes clientes, mais ça nous libère beaucoup de culpabilité. Parce que si notre enfant pleure, on n'est pas complètement responsable de ses pleurs. On va pouvoir le soulager, mais ce n'est pas à cause de nous qu'il pleure. Et on fait tomber la culpabilité maternelle qu'on a depuis qu'on accouche, hein, jusqu'à ce qu'il soit grand. On porte toujours cette charge et cette culture de je dois tout faire pour mon enfant. Et non, je dois l'accompagner à comprendre ce qu'il vit et je dois l'aider à choisir ses stratégies parce qu'il sera autonome un jour.
C'est ça.
Donc depuis le projet d'enfant, si on se dit je vais faire cet enfant, oui, il va m'apporter beaucoup de bonheur indirectement, mais il va pouvoir surtout grandir et créer ses propres ressources et comprendre lui-même son propre chemin. Donc, dès le début de la grossesse, on peut envisager un être autonome. Et ça nous met beaucoup moins de pression sur la petite enfance, l'adolescence, et puis quand il sera adulte, on n'attend plus qu'il comble nos propres besoins. On le rend déjà libre de ressentir ce qu'il veut.
Alléluia. Ce sont des messages tellement importants à comprendre et qui ne sont pas forcément si simples finalement. Parce que justement, on est aux prises avec beaucoup d'émotions. Parce qu'effectivement, quand on laisse son petit bout à la crèche ou à la nounou la première fois, si on revient au tout début, bien sûr, c'est
C'est un
complexe. Bien sûr, ça vient
raz-de-marée,
nous
ah oui.
chercher. Bien sûr, c'est dur. Voilà, c'est des choses aussi qui s'accompagnent, qui s'anticipent. C'est toujours important aussi de savoir qu'on n'est pas seul à vivre ça. Décortiquer un peu ces processus, parce qu'il y a quand même un peu de théorie quelque part, ou de choses qui sont un petit peu universelles, même si ensuite il y a évidemment la part personnelle, individuelle, qui rentre en ligne de compte, c'est évident. Et puis il y a le couple. Il y a l'individu maman, il y a le partenaire ou la partenaire, chacun aussi confronté à son propre vécu, différemment l'un et l'autre, puisque l'un a porté l'enfant, l'autre non, donc ça va aussi remuer des choses différentes. Mais il y a cette entité du couple, cette troisième entité qui est là. Il faut s'accorder, il faut être d'accord, réussir à comprendre un peu l'état émotionnel de l'autre pour essayer d'en faire quelque chose, de construire quelque chose à partir de ce couple, et d'essayer de pas tomber en baby clash, hein. Je rappelle toujours cette sombre statistique parce qu'elle peut être éclairante même si elle est sombre. Pour ceux qui ne le savent pas, même si c'est un tabou, oui, un couple sur quatre se sépare dans les premiers mois après bébé. Et il faut le dire et il faut le savoir parce que c'est un écueil qu'on peut éviter si on se prépare à l'avance en termes d'information, de partage d'informations, de partage de décisions qu'on anticipe quand on connaît les écueils à l'avance et puis de check émotionnel, j'ai envie de dire, tout le long des deux partenaires du couple. Où est-ce que t'en es? Où est-ce que j'en suis? Et d'essayer d'en parler sereinement. Il y a tout un cheminement, en fait, un processus émotionnel à faire à deux, en couple.
Depuis le projet d'enfant, je pense qu'il serait intéressant de voir notre rapport aussi au contrôle et à l'espoir. Parce qu'on a tous les deux des visions de l'espoir de cette grossesse. On projette cet enfant différemment. Et si on s'installe des espaces de discussion avec le papa ou avec la deuxième maman, on va pouvoir déjà trouver les petites différences. Ah bon, toi, tu imagines que ça va se passer comme ça? Ah, moi, j'imagine que ça va se passer comme ça. Et dans l'altérité, dans l'idéalisation de chacun, on voit déjà des différences. Et quand on sera fatigués tous les deux, on se rappellera que, ah oui, il ne voit pas les choses comme moi. Elle ne voit pas les choses comme moi. Et c'est très normal parce qu'on se base sur notre vécu, sur nos lectures, sur les podcasts qu'on a écoutés, sur bah, ce que la sage-femme nous a dit, ce que la doula nous a dit. Et on n'a pas entendu les mêmes mots, pourtant elle a prononcé les mêmes mots. Ça veut dire que si on écoute le même podcast avec le papa, on n'aura pas les mêmes impressions parce que ça vient se poser sur nos cicatrices, sur nos braises, sur nos souvenirs, sur ce que notre mère nous a raconté de son propre accouchement. Et donc, on a un rapport à l'espoir que ça va se passer comme on croit et on a un rapport au contrôle. Et je vais souvent dans cette notion-là, c'est que quand on veut contrôler ce qui va se passer pour la naissance, pour la petite enfance, pour la rentrée en crèche, pour la rentrée en maternelle, il y a une part de nous qui ne pourra pas le contrôler. Est-ce qu'on est au clair avec cette impermanence du monde extérieur? C'est que oui, on aime avoir le contrôle, mais c'est plus facile d'avoir le contrôle sur son linge ou son jardin. Là, on est
C'est
dans
ça.
une sphère qui ne marche pas. Je ne pourrais pas contrôler complètement mon accouchement. Je ne pourrais pas contrôler les réactions de mon enfant quand il sortira de sa première journée d'école. Peut-être qu'il va être calme, peut-être qu'il va être débordant. Et donc, lâcher prise au sens de tous les magazines féminins, ce n'est pas une injonction supplémentaire. C'est plutôt du confort que vous allez vous donner. Parce que si vous voulez contrôler tout le développement de tout le monde et le dialogue avec le papa, et l'accouchement va se passer comme ça parce que je l'ai décidé, oui, il y a la loi de l'attraction, oui, il y a le projet de naissance, oui, il y a l'intention, mais l'intention, ce n'est pas 100% contrôlable. Et si on fait déjà la paix avec ça avant d'être parent, peut-être qu'on va moins s'affronter après dans la communication en couple, peut-être qu'on va moins se juger de ne pas être la maman qu'on voudrait être. Parce qu'on a déjà fait la paix avec tout ne va pas être sous mon contrôle. Mon enfant va avoir des comportements que je n'attendais pas. Il va se passer des choses que je n'ai pas pu anticiper. Et j'adore pourtant l'anticipation, hein. J'adore la logistique. Mais il y a un moment où on ne pourra pas aller plus loin que ça. Et c'est frustrant parce que c'est une zone d'inconfort. Et peut-être que quand on est jeune maman, future maman, on veut se rassurer et contrôler au maximum. Et moi-même, pour ma première fille, j'ai voulu tout contrôler. Et après, je me suis dit, oulala, tu vas dans le mur là si tu veux tout contrôler. Parce que c'est épuisant de vouloir tout contrôler aussi. Donc il y a un équilibre, encore une fois, entre je participe à l'anticipation et à la prévention des risques de dépression, d'épuisement, et d'un autre côté, je relativise, mon enfant n'est pas en danger. Oui, je voulais faire tout ça, mais j'y arrive pas. Eh bien, je reporte, c'est pas perdu. Mais si ce mois-ci, je n'arrive pas à installer la motricité libre, la DME ou la continence, eh bien, je verrai le mois prochain. Essayons de nous libérer et de nous simplifier un petit peu la vie en tant que parents, parce qu'il y a tellement de choses à décider, à régler dans les 12 premiers mois, que si on se met déjà la pression alors que l'enfant n'est pas né, avec le manque de sommeil, avec le flou artistique de la communication dans le couple, on s'attend à des clashs en fait, à aller directement dans les trous, dans les embûches.
Et on oublie presque de profiter de l'instant présent. Tous ces petits instants, malgré le manque cruel de sommeil, ils sont fugaces, il faut les vivre, il faut les vibrer, il faut les attraper quand ils passent, parce que parfois ils durent pas longtemps. Et
Noté.
puis, pour compléter ce que tu dis, avec quoi je suis totalement d'accord, tu as aussi l'autre qui fait son même chemin, qui est confronté à ce même challenge. Contrôler, lâcher prise, accepter, tolérer l'altérité de l'autre, cet autre que j'aime, avec qui j'ai fait un enfant. On s'était pourtant mis d'accord, on a pourtant bien dialogué, y compris pendant la grossesse, on a même pris une doula, on a même une facilitatrice en émotion, et pourtant, il ou elle ne se comporte pas comme j'aurais voulu, il n'a pas la réaction qu'on avait décidée. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe que l'autre vit aussi son chemin émotionnel, que tout ne se contrôle pas même en soi-même, et que parfois, ben, on avait pensé être un parent comme ci ou comme ça, et que face à ce petit enfant, face aux difficultés ou aux choses qui sont peut-être au contraire tellement plus simples et tellement plus fluides qu'on l'aurait craint, eh bien, on n'évolue pas comme on avait pensé. C'est ça aussi le postpartum.
Il y a quand même le côté administratif, financier, le travail, les beaux-parents, le regard de la voisine qui critique toujours la façon de faire. Tout autour du couple, il y a des satellites qui peuvent potentiellement aussi envoyer des propres étincelles d'émotion. On a beau se créer une bulle, et c'est ce que les gens conseillent en général dans l'accompagnement à la parentalité, c'est se créer une bulle pour savoir ce qu'on veut, ce qu'on aime et ce qui nous est utile, tout en sachant qu'autour de notre bulle, il va y avoir des gens qui vont envoyer des pics, envoyer des flèches, parce que leur vision de la parentalité n'est pas comme nous, leur vision de l'éducation n'est pas comme nous, les beaux-parents n'éduquaient pas comme ça, les grands-parents encore moins, et puis votre patron bah, vous demande de rester et ce n'était pas prévu. Nous, on a beau se recentrer au maximum en tant que parents, on a beau comprendre notre enfant, une fois de plus, ce que les gens vont nous apporter comme difficulté, comme défi, comme chose à surmonter, il y a des jours où on sera tout à fait capable de les appréhender de manière souple en se disant « Ok, je comprends son besoin à lui, je comprends mon besoin à moi, je peux réagir de manière horizontale sans lui reprocher ma frustration ou ma colère. » Et il y a d'autres jours où on sera sur les nerfs, et tant mieux, parce qu'on va exprimer que là, il y a un trop-plein, que c'est trop dur, où on va demander de l'aide à son mari, à sa meilleure amie, à sa voisine, à sa tata, on va prendre une babysitter, on va souffler. Osons demander aussi de l'aide quand on sent que là, on est en train un petit peu de couler. C'est difficile de demander de l'aide et j'ai des clientes qui ont attendu des mois et des mois en disant « j'ose pas, il y a des gens plus urgents » ou « je sais pas trop si ça va m'aider ». Passer à l'action, ça vous permet de voir si ça vous aide ou pas.
Tester, essayer, passer à l'action.
Vous n'êtes pas les
on a la réponse
seuls à vivre ça, surtout. Vous n'êtes pas les seuls à vivre ça.
C'est essentiel. C'est important de toucher du doigt des cas concrets pour faire comprendre toutes ces choses bien spécifiques qui peuvent nous arriver dans ce parcours du désir d'enfant jusqu'à aller l'entrée à l'école maternelle. Est-ce que tu peux partager avec nous peut-être des sujets précis où tu sais que les parents que tu as accompagnés ou les futurs parents, peut-être en désir d'enfant, en deuil périnatal aussi, j'en parlais dans l'introduction, peuvent avoir recours à tes services, que ceux qui nous écoutent puissent vraiment comprendre de manière très spécifique ces points durs ou au contraire les choses que tu peux essayer de dénouer. L'anecdote est souvent très parlante pour réussir à rentrer dans ces sujets.
J'ai accompagné une maman qui a eu un parcours difficile de PMA, qui a fini par avoir son petit garçon, mais qui a essayé donc de préserver toute cette grossesse, qui a essayé de protéger aussi sa vision de la parentalité. Mais comme c'était un parcours très médicalisé, qui a eu plusieurs échecs, qui a eu plusieurs déceptions, elle a senti qu'autour d'elle, on la vampirisait en fait émotionnellement. On voulait toujours lui dire « Ah mais ça va aller », donc nier en fait son émotion, ou alors au contraire, on lui disait « Oui, oh, bah, c'est pas si grave ». À chaque fois, elle était obligée de justifier comment elle se sentait et elle ne se sentait pas prise en compte émotionnellement. Donc on a refait le récit de sa grossesse, on a fait le récit aussi de la place du papa. Parce qu'au bout d'un moment, c'était tellement difficile pour elle qu'elle n'arrivait plus à dire à son mari que pour elle, c'était dur. Parce qu'elle ne voulait pas qu'il se sente aussi triste qu'elle. Mmh. Et là, elle a évité une contamination émotionnelle alors qu'elle aurait pu faire un partage émotionnel avec son mari. Donc, sur ces deux points-là, il y a admettre que l'espoir n'est pas au rendez-vous, que le contrôle et le résultat n'est pas là. Il y a eu un échec de la PMA. Le bébé ne s'est pas développé. C'est factuel, mais factuel, ça peut faire mal quand même. Et quand on fait un travail émotionnel, on se dit, voilà ce qui est factuel. Et je me raconte que c'est peut-être de ma faute. Je me raconte que j'aurai peut-être jamais d'enfant. Je me raconte que je ne suis pas à la hauteur. Et c'est ça qu'on va chercher, en fait. C'est les pensées de ce que je me raconte sur le fait que l'enfant ne soit pas encore là. Et malheureusement, pour certaines femmes, ça n'aboutira pas physiologiquement. Mais pour d'autres, le fait de se dire, bah oui, en fait, c'est pas en mon contrôle. C'est pas en mon contrôle. Il va y avoir une tentative, deux, trois. Après, on va changer de méthode. On va peut-être aller à l'étranger. On va peut-être faire un autre protocole. Mais je ne suis pas responsable de ça. Et quand on lâche prise, encore une fois, hein, et quand on se dit, il y a des choses qui sont en mon contrôle et des choses qui n'en sont pas en mon contrôle, et qu'on arrive à dire à notre conjoint, voilà comment je me sens. Je ne te mets pas mon émotion sur le dos, mais voilà comment je me sens. Mmh. Je suis triste. Je suis triste parce que j'avais une attente. Je suis triste parce que je voulais que cette année, on ait ce bébé dans les bras et on ne l'aura pas. Et poser des mots sur ce qui est factuel et poser des mots sur ce qui est émotionnel, c'est des petits pas qu'on fait dans le dialogue avec l'autre. Et par rapport aux beaux-parents hein, de cette maman, elle a fini par mettre un mur avec la communication autour de ses grossesses, de ses FIV, de ses PMA. Parce qu'elle ne voulait plus être impactée par justement la contamination émotionnelle de la famille. La personne avec qui on est en émotion forte, et je lui dis, bah, sur la colline de cette personne-là, elle a des émotions, elle a des besoins, elle a une vision de la vie. Mais parfois, elle te rend responsable de son émotion. Mmh. Et donc, cette belle-mère disait, ah mais quand même, c'est pas dur d'avoir un enfant. Mais la violence de cette phrase... Donc, c'est cette grand-mère, cette belle-mère qui se projette sans imaginer avec empathie la réception d'une phrase comme ça, alors que bah, le mari n'ose plus rien dire parce qu'il voit sa femme qui est mal. Elle, elle n'ose plus rien dire à son mari pour pas qu'il soit mal non plus, alors que tout ça, c'est légitime d'être triste. C'est légitime de se sentir démuni. Soyons démunis. Et allons voir pourquoi on est démuni. Parce qu'on a un
espoir. C'est normal, c'est sain et ça passe aussi. L'émotion est aussi un processus. Il faut prendre conscience du message que vient nous livrer aussi l'émotion. Il y a toujours un message derrière une émotion. C'est d'ailleurs le rôle d'une émotion.
Ne l'étouffe
pas. Il ne faut surtout pas le gérer de manière rationnelle, comme on peut le. Voilà. Une émotion, ça se gère, tac, 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 c'est carré, on n'en parle plus. Ou alors on l'enfonce le plus possible pour pas que ça remonte au conscient. Non. Une émotion, c'est une vague, ça passe. Il faut juste l'accueillir, il faut se dépêcher de comprendre le message qu'elle est venue nous livrer. Parce qu'il y a toujours une alerte. Attention, le cerveau là-haut, il y a peut-être un truc dangereux. S'il te plaît, prends le relais. Je ne sais pas si j'ai peur à raison ou à tort, mais prends le relais. Le cerveau, il va dire, ah, la peur est venue me dire quelque chose. Est-ce que j'ai un danger immédiat? Oui, non. Oh non, c'était pas dangereux. Bon, bah ok, va-t'en, la peur. J'ai analysé que j'ai pas besoin d'avoir peur. C'est un exemple. La tristesse vient nous donner un autre message, la frustration. Encore un autre message, la colère, encore un autre message. Il faut aller ouvrir le paquet cadeau de l'émotion. Pour moi, c'est un cadeau, l'émotion. Il faut aller ouvrir le paquet et voir le message qu'elle est venue nous livrer. Plutôt que de dire, ah non, je suis en colère, j'ai pas le droit, c'est pas légitime. Oh là là là, je sens que je vais être triste. Non, 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 je veux pas, je me détourne de la tristesse. Voilà. Et on veut pas regarder parce que ça nous fait peur en général, les émotions.
Ou alors, on dit que c'est à cause de la situation ou de l'autre. Et c'est vraiment le chemin que je fais avec les mamans que j'accompagne, c'est je reprends la responsabilité de mon émotion, j'admets que je suis triste, j'admets que je suis déçue, j'admets que j'ai peur de ne pas être enceinte, j'admets que j'ai peur de ne pas avoir cet enfant dont je rêve. Et pourquoi je suis dans cet état-là? Mais parce que j'aimerais transmettre, j'aimerais contribuer, j'aimerais avoir un descendant. Et en fait, là, ça me rassure parce que mes besoins aussi sont légitimes. Et je ne les fais plus porter à mon mari ou au docteur. C'est pas la faute du docteur si j'ai pas cet enfant.
Et tu te recentres sur l'essentiel, c'est-à-dire ton besoin profond. Tu vas te connecter à ton besoin profond que tu conscientises pas tous les jours non plus en réalité.
Et ça permet ensuite de choisir la bonne option, la bonne action.
Exactement.
Parce que si on rumine en disant « mais ça fait trois fois que j'essaye et lui il me comprend pas et la belle-mère c'est une conne », en fait c'est de l'énergie qui est dispersée et qui ne nous rend pas service sur le projet initial. Si on a ce projet d'enfant, si on a ce projet de faire l'instruction en famille, on y met toute notre force, toute notre énergie, parce que ça fait sens pour nous. Et ce que les gens disent, ce que les gens pensent, on met un mur d'étanchéité, on se dit, vous pouvez penser ce que vous voulez, vous pouvez dire ce que vous voulez. Mais moi, je sais pourquoi je le fais, je sais quel besoin ça va nourrir, je sais quelle émotion je veux déclencher en moi. Et pour lutter contre cette peur ou cette déception, je vais créer en moi de la satisfaction, de la fierté d'avoir mis toutes ces actions bout à bout. Oui, je vais réessayer. Oui, je vais communiquer. Oui, je vais aller me renseigner sur toutes les options possibles. Je ne vais plus être victime des circonstances extérieures. Je ne vais plus les subir. Alors, ça fait grande phrase comme ça, hein. Mais c'est vrai que reprendre la responsabilité de son émotion, c'est un grand pouvoir qu'on ressent quand on le fait, de ne plus faire porter quoi que ce soit sur qui que ce soit. Et c'est une liberté intérieure qui, en plus, va être utile pour plus tard, pour notre enfant. Parce qu'on va lui transmettre ça à son tour et il arrêtera de dire « c'est pas moi, c'est lui » ou « j'ai rien fait » ou tout ce qu'on entend dans la cour de récré, tout ce qu'on entend quand ils se bagarrent entre eux, nos enfants. Et en fait, on a été élevés comme ça, parfois, à reporter toujours notre émotion sur la société, le président, le ministre de l'Éducation nationale ou tout ça. Et à un moment, on se dit « oh là, mais en fait,
ça sent le vécu, ça.
J'ai haï mon ministre de l'Éducation nationale. » Et après, je me suis dit « c'est trop facile, Séverine, de tout mettre sur son dos. Si tu n'es pas contente, tu pars. » Et on peut faire ça dans le couple aussi. Si on n'est pas content de la charge mentale, de la répartition des tâches, on peut dire « stop ». J'ai des mamans qui ont dit un jour « je pars en week-end, je te laisse notre enfant. Bon week-end. » Et le papa, il ne s'y attendait pas. Mais elle, c'était vraiment l'action qui lui a permis de dire « j'existe en tant que femme, je ne suis pas que la mère de cet enfant. J'existe en tant que femme, ce n'est pas à moi de porter toute la charge mentale. » Donc, il y a eu des déclics qui sont passés pour certaines des mamans que j'accompagne et qui ont posé des actions. Mais pour poser cette action, pour être forte et pour assumer de contredire peut-être l'ordre établi, parce qu'une maman qui se prend un petit week-end toute seule, c'est pas encore complètement dans les normes hein, quand l'enfant est petit. Et les clientes, quand j'en discute, elles disent « ah non, moi je pourrais pas faire ça ». Et d'autres qui sont passées à l'action, disant « mais c'est génial, le papa s'investit, il connaît mieux son enfant, il prend de la connexion, il sait où sont les choses, le carnet de santé, la nourriture, et après ils sont complètement autonomes. Et au contraire, c'est un cadeau qu'on fait à tout le monde, à notre enfant, à notre conjoint, à nous-mêmes, à nos relations sociales qu'on a un peu perdu de vue quand on est devenu maman. Et cette action-là, je ne peux la poser que si j'ai été voir quel besoin je voulais vraiment satisfaire. Un besoin d'évasion, un besoin de détente, un besoin d'authenticité, un besoin de silence, tout simplement. Les mamans qui veulent du silence, est-ce qu'elles arrivent à le trouver quand elles ont 3 enfants à la maison et qu'elles sont à domicile toute la journée? C'est difficile de savoir ce qu'on veut tant qu'on n'a pas été creusé, comment on se sent. Voilà les étapes, en fait.
Tu parlais tout à l'heure de mettre des mots sur une émotion. Très précieux, parce qu'au quotidien, ça crée le cadre, l'air de rien. Ce petit rendez-vous qui est là, pour pouvoir aller regarder à l'intérieur de moi ce qui s'y passe, pour pouvoir me dire, est-ce que c'est cet adjectif-là aujourd'hui? Non, en fait, je me suis sentie, je n'étais pas soutenue, en fait, aujourd'hui. Oui, en fait, c'est ça. Je me suis sentie délaissée ou rejetée ou ce que tu veux, ou au contraire, tellement soutenue, je me sens tellement amoureuse, je me sens tellement reconnaissante. Voilà, d'aller regarder tout ça, ça aide. Et quand on pose des mots, la moitié du chemin est fait. Est-ce que tu as cette notion de la puissance du mot? Quand tu arrives à mettre un mot sur une émotion, tu conceptualises tellement de choses, quoi. C'est éclairant, en fait. Est-ce que tu partages ce point de vue?
Tout à fait. Je propose qu'on le fasse directement en live. C'est de vous imaginer que là, près de votre cœur, vous avez votre cheminée des émotions. Avec tout ce qui s'est passé aujourd'hui, dans votre cheminée des émotions, vous avez déjà plein de flammes. Vous avez une flamme agréable parce que vous avez réussi à boucler votre dossier. Vous avez une flamme de doute parce que vous n'avez pas rendu complètement l'inscription pour la kermesse de la semaine prochaine. Et en fait, toutes ces petites flammes, elles sont là, mais on n'a pas eu le temps d'aller regarder. Et ce que je fais en séance individuelle, on commence par là. Allez voir le nombre de flammes qu'on a actuellement dans notre cheminée. Donc, vous pouvez le faire en direct si vous voulez. Allez voir quelle est la plus grosse des flammes. Est-ce qu'elle est agréable ou plutôt désagréable? Il y a peut-être un truc qui tourne, qui rumine en ce moment dans votre cheminée. Peut-être une dispute avec votre mari parce que ceci, parce que cela. Et après, cette flamme-là, on peut aller la nommer, comme tu l'as dit. On peut voir son intensité. Et ce que je fais aussi avec les mamans, c'est que je leur demande si elles l'ont déjà vue, cette flamme, ou si c'est nouveau. Parce que des fois, c'est des flammes qu'on connaît super bien, hein, avec qui on habite depuis des années. Puis des fois, c'est des flammes plutôt nouvelles parce qu'on est inconfortable, on nous a demandé quelque chose d'inédit. Tu vois, la première fois que j'ai fait un live sur Instagram, j'avais une flamme de peur terrible parce que c'était trop nouveau. J'étais en dehors de ma zone de confort. Et quand on va voir cette flamme, il y a deux possibilités. Soit on met le nom de l'émotion si on la trouve toute seule Et c'est là où la grammaire émotionnelle, où le lexique émotionnel est tellement important. Et on a peu de mots hein, quand on est jeune et quand on est ado. Et je vous invite à vraiment faire ce travail qu'on fait aussi en communication non violente, de chercher le bon mot, le bon qualificatif. Parce que comme tu dis, ça nous oriente vers ce qui se passe en nous. Et après, on va chercher le besoin. Et il y a des mamans qui trouvent plus facilement l'émotion et d'autres qui trouvent plus facilement un besoin. Genre, je me sens comme ça parce que j'avais besoin de connexion. Et je n'ai pas trouvé la connexion à ce moment-là. J'avais besoin d'enthousiasme et je me suis sentie un peu isolée. J'avais besoin de... Donc, tu vas d'un état à l'autre. L'émotion amène le besoin ou le besoin amène l'émotion. Et évidemment, le but, c'est d'avoir plein de flammes agréables dans notre cheminée et d'en avoir de moins en moins de désagréables. Et plus on fait ce travail et plus on régule nos flammes agréables et on les savoure, et moins on est victime ou en train de subir nos flammes désagréables. Donc comme ça, les personnes qui te suivent auront déjà une partie des outils des petits plus zen s'ils veulent le faire eux-mêmes tout seuls. Et ils ont la trame dans l'épisode 69 s'ils veulent l'écouter. Mais c'est hyper important de mettre le mot parce qu'en plus, après, dans la communication avec le médecin, avec la directrice de crèche, avec la maîtresse, avec le mari, avec la belle-mère, on pourra dire comment on se sent, ce dont on a besoin et ce qu'on propose comme solution, comme compromis. Donc, ça va déjà nous faire la matrice de la communication qu'on va poser avec les gens. Alors que si on est débordé par notre flamme, on va arriver vers l'autre, on va lui rentrer dedans en le rendant responsable de notre émotion. On ne va pas savoir par quoi commencer parce qu'on n'aura pas fait ce petit temps d'introspection. Et ce qu'on voit en communication non violente aussi, c'est si je m'accorde un peu d'empathie avec mes émotions et mes besoins, je pourrais ensuite dire à l'autre ce que je pourrais proposer pour qu'on ait tous les deux un gagnant-gagnant. Parce que si je rentre dedans, la directrice de crèche, elle va me dire « Oh là, on va se calmer, madame !» Et elle aura bien raison, parce qu'elle-même, elle n'a pas envie d'être contaminée par notre flamme. Donc, c'est très important de le faire, même quand on n'est pas parent. Hein. Là, c'est un conte où on parle vraiment aux parents, mais si autour de vous, vous avez des gens qui ne sont pas parents et qui faisaient ce travail-là, ils gagneraient beaucoup de temps. Parce qu'après, pour l'éducation, c'est vraiment très précieux.
Gagner du temps et dépenser moins d'énergie. Je trouve que ça, c'est un message important que tu as fait passer là aujourd'hui. Oui, les émotions, savoir les gérer, savoir les accueillir, savoir quoi en retirer, comment les aborder, ça permet d'économiser de l'énergie, de plus avoir cette déperdition d'énergie parfois quand on se laisse déborder par ses émotions et qu'on n'arrive du coup plus à aborder certains dialogues avec certaines personnes. C'est aussi un confort, tout simplement. Parfois, j'entends des gens qui me disent « Oui, mais l'émotion, c'est bien gentil, l'émotion, mais c'est pipeau. » Il y a quand même encore des gens qui ont cette vision-là. Mais l'émotion, ça sert à rien, l'émotion.
Une partie des générations précédentes, on les a fait taire parce qu'ils étaient dérangeants avec leurs émotions. Toutes les petites filles à qui on a dit « Ah, sois calme, ne t'énerve pas, on ne s'énerve pas quand on est une fille. » Et pour les garçons, on ne pleure pas quand on est un homme. Donc, si on nous a fait taire nos émotions quand on était enfant, une fois à l'âge adulte et une fois devenu parent, quand on doit nous-mêmes accueillir les émotions de nos enfants, on n'a pas les outils et c'est bien naturel. On est démunis. Donc comment les transmettre ?
On se trouve complètement illégitime même à parler de ces sujets. Ou ridicule, ou voilà. Mais c'est un sujet sur lequel il y a encore une grande éducation, j'ose dire le mot, à faire. Et en tout cas, beaucoup de transmission et de partage d'informations. Et...
À un moment donné, on va s'appuyer soit sur le corps, soit sur les ressentis, soit sur les émotions, soit sur le langage, mais on va arriver au même endroit. C'est que le bien-être de la famille va passer par l'accueil des émotions. Le chemin que vous allez utiliser, il sera différent suivant le spécialiste, mais l'accueil des émotions, c'est une boussole pour que la famille se sente bien, parce qu'elle pourra mieux communiquer avec tous les membres, elle pourra mieux s'organiser pour que l'un ne se sente pas oublié ou victime, ou c'est toujours moi qui fais, ou tu m'écoutes pas, parce que chacun trouvera sa place. Et on ne peut trouver sa place que si on sait qui on est, comment on se sent, ce qu'on veut, ce qu'on attend, et de demander aussi des échanges dans la famille. Si on fait tout et qu'on se tait et qu'on se sacrifie, ben à un moment, on ne sera pas heureux en famille. Et on va le faire porter à l'autre, on va créer une dette. Et les enfants entre eux, ils vont ressentir un peu l'inégalité aussi dans le couple parental. Donc si on veut que nos enfants soient eux-mêmes autonomes émotionnellement, ne fassent pas reporter leur flamme sur quelqu'un d'autre, prennent la légitimité de leurs émotions et de leurs besoins au fur et à mesure de leur âge, hein, pas un an, pas un deux ans, mais dès 3 ans, il y a des enfants qui sont très capables de comprendre tout ça En classe, ça marchait formidablement bien. Dans les écoles, ils commencent à mettre ça en place et j'espère que ça va se développer pour qu'arriver au collège, arriver au lycée, nos enfants, ils soient complètement autonomes et qu'ils ne se sentent pas dépendants d'une relation quelle qu'elle soit. Et qu'on dise, là, je t'entends, mais je ne suis pas responsable de ta colère, je ne suis pas responsable de ta tristesse. Je te rends ton émotion. C'est une phrase vraiment, rendez les émotions qui ne vous concernent pas.
Exactement. Alors, j'aime beaucoup cette petite histoire qui traîne un peu de partout à tel point que je ne sais même plus d'où elle vient initialement. Cette petite question qui est posée de si quelqu'un t'offre un cadeau, un objet, tu n'en veux pas, tu le refuses. À qui appartient le cadeau ? À celui qui a voulu me le donner, mais j'en ai pas voulu. C'est ça. Donc si cette même personne peut te refiler une émotion négative et que tu n'en veux pas, de la colère par exemple, qu'est-ce que tu fais ? C'est la même chose. Tu lui dis, j'en veux pas de ta colère, garde-la. Elle t'appartient. Et du coup, elle ne t'appartient pas. Sinon, prendre la colère de quelqu'un d'autre, c'est finalement s'infliger à soi-même une punition.
On peut le faire après quand on sait le faire, mais au début, on a du mal à mettre une étanchéité entre les émotions des autres et les nôtres. D'autant qu'on est fatigué si on vient d'accoucher, d'autant quand il y a 3 enfants à la maison et qu'on est une femme active, on a beaucoup de casquettes déjà. Mais quand on connaît bien l'outil, on peut refuser les émotions des autres sans violence, sans confrontation. On peut juste lui dire « Ah, oh, tu as l'air quand même très triste. Est-ce que tu veux m'en parler ?» Mais « Est-ce que tu veux m'en parler ?» C'est pas « C'est à cause de moi si tu es triste. » On va renvoyer une perche, on va tendre un miroir à l'autre pour qu'il puisse se déposer. C'est ce qu'on fait aussi en cercle de parole de maman, que chacun puisse déposer son émotion et rentrer chez soi en se disant « Waouh, j'ai pu en parler, je me sens mieux. » Je ne vais plus la faire porter à mon mari, à mon enfant, à mon patron. Et je vais voir maintenant, avec plus de clarté, comment mieux nourrir mes besoins pour aller mieux. Mais si je ne fais pas ce dépôt d'émotion quelque part, j'ai du mal. Je tourne en rond.
Il y a un trop plein. C'est ça, exactement. Mais c'est un entraînement. Tu disais, c'est difficile au début. Ouais. Je dirais même, ça reste difficile occasionnellement, même quand on pratique. Hein, on le disait tout à l'heure. Parfois, on est irritable, irrité, on n'a pas dormi, il y a eu autre chose. Et c'est un trop-plein aussi ponctuel, même si on est fin tacticien dans la matière. Il y a certains moments où même nous, on peut se laisser déborder. C'est humain, c'est normal. J'ai presque envie de le revendiquer pour ma part. Non, nous n'avons pas à être parfaites. Et c'est bien ainsi. Mais c'est un entraînement en tout cas. Tu as raison, quand on connaît l'outil, quand on se rend compte que oui, ça se gère, mais pas dans le sens ça s'enferme dans des boîtes et il faut écarter l'émotion. Mais non, ça se gère, ça s'accueille. Avoir les réflexes de pensée, de comment on peut accueillir cette émotion, écouter son message, comprendre le besoin et retourner vers l'autre, sans agressivité, sans lui dire, dis donc, tu restes loin avec ton émotion, elle ne me touche pas. Mais comme tu dis, en l'accueillant, en disant, bon, ok, c'est quoi ton besoin, effectivement, est-ce que tu veux déposer, qu'est-ce que je peux faire? Ou même juste parfois, quand on n'est pas capable, parce que, par exemple, on vient d'accoucher, on n'a pas dormi, on est en postpartum, on sent qu'on va pas pouvoir offrir quoi que ce soit d'autre à la personne, ni même un espace d'écoute dans l'instant, c'est au moins de ne pas se sentir soi-même heurté, blessé, attaqué par l'émotion de l'autre. Au moins ça, c'est déjà tellement précieux. Il m'a mal parlé. Ok, pousse, stop. C'est pas mon problème. Je reste centrée sur moi. Même pas envie. Là, tout de suite, maman, de réfléchir à quoi, je suis déjà saturée. Mais au moins, je ne me sens pas attaquée, je ne me sens pas blessée. C'est pas moi le problème. Bah, rien que ça, je sais pas si tu partages mon avis, mais c'est déjà pas si évident pour plein de gens. Futurs parents, jeunes parents, enfants, ados, adultes, en dehors de la grossesse, célibataire, pas célibataire, homme-femme, c'est un réflexe d'intelligence émotionnelle qui n'est pas si répandu tout simplement parce qu'on ne nous l'explique pas. On ne nous l'explique pas à l'école, on ne nous l'explique pas à la fac ou dans les grandes écoles, on ne nous l'explique pas dans les journaux. Heureusement qu'on existe finalement, Séverine. Alors, comment on fait pour venir jusqu'à toi, justement ?
Juste avant, je voulais dire que moi, j'ai vécu ça en le subissant pendant des années au niveau pro, perso, familial. Et il a fallu que je découvre la communication non violente pour que l'idée d'autonomie émotionnelle de chacun vienne enfin percuter mon cerveau au bout de 40 ans. Et ça veut dire que c'est tellement normal qu'on ne connaisse pas ces outils si on a été élevé dans une famille où les émotions n'étaient pas accueillies, qu'il n'y a vraiment pas à se juger. Moi, au tout début, je me suis dit, oh là là, j'ai perdu un temps fou, parce que j'accueillais les émotions de tout le monde, j'absorbais les émotions de mes élèves, des mamans d'élèves, de mes collègues de boulot, et des gens qui étaient complètement épuisés à l'éducation nationale. J'absorbais tout ça, Et c'est évidemment pour ça qu'on est épuisé, parce qu'on ne rend pas les émotions aux autres. Donc ce travail, je l'ai vécu moi en tant que consommatrice, et maintenant je le transmets parce que ça sauve des vies en fait, ça sauve des couples. On a parlé des couples, on a parlé du dialogue dans le couple, ça sauve des enfants, parce que j'ai vu des enfants ressourire quand j'ai expliqué tout ça aux parents dans la classe, des parents qui élevaient leurs enfants comme ils ont été élevés. Un papa qui enfermait sa fille dans l'armoire parce qu'elle faisait des bêtises. Une maman qui attachait les bras de son enfant pour le faire manger. Et pour l'avoir vécu en tant que maîtresse, je me suis dit, c'est mon rôle en fait, je dois transmettre ça. Que l'enfant a un comportement normal, mais que nous, si on n'a pas été élevé dans nos émotions, on ne sait pas accueillir l'émotion de notre enfant et on va le rendre responsable d'une frustration et d'une colère de parent. Donc on détricote tout ça. Donc tu me proposais d'expliquer un peu plus. Le plus simple, c'est de faire un scan des émotions et des besoins, ce qu'on a fait un peu en direct aujourd'hui avec votre cheminée et votre arc-en-ciel de besoins. Donc, il y a un lien Calendly dans ma bio. Vous pouvez cliquer les petits plus zen et vous trouverez le lien Calendly. Donc, ça, c'est ponctuel, c'est en one shot. Et après, j'ai des programmes en ligne où on va travailler notre cheminée en toute autonomie. Il y a des vidéos, il y a des lives de questions-réponses. Et je fais aussi des cercles de parole, un cercle de parole entre mamans. Donc, il y a 6 places, il n'y a pas de replay. C'est vraiment en toute intimité. J'en fais un tous les mois. Et chaque mois, on a des nouvelles confidences, on a des nouvelles actions. Ce n'est pas du coaching hein, ce soir-là. C'est vraiment, voilà, mon mari me saoule. J'ai encore une petite vieille qui m'a dit que je devrais mettre des lunettes à ma fille dans sa poussette dans la rue. Et je ne lui ai rien demandé. Et j'ai envie de hurler sur cette petite vieille. Vraiment, ce qu'on vit, en fait, sans se cacher. Ce qu'on n'ose pas dire à son mari. Ce qu'on n'ose pas dire à sa meilleure amie parce qu'elle n'a pas d'enfant. Donc, c'est un espace sécur où on vient se déposer. Et puis, j'ai une offre aussi qui s'appelle Zenflix, où j'envoie un mail pour ne pas craquer avec nos enfants, avec notre mari, et penser à soi et prendre du temps pour soi. Vous noterez hein, le petit clin d'œil à Netflix, parce qu'on passe beaucoup de temps sur Netflix, et si on passait juste 1 heure sur Zenflix, on irait beaucoup mieux dans nos émotions et nos besoins, sans reporter nos émotions sur les autres. Hein. C'est vraiment le message que je voulais aussi passer ce soir. C'est qu'une fois qu'on a fait la paix avec nos émotions, on a un rapport beaucoup plus cool aux inconnus, hein, voilà, ça a matché tout de suite entre nous la semaine dernière, parce qu'on est sur ce même canal au niveau de l'intelligence émotionnelle, et que la transmission à toutes les générations de familles, de parents, d'enfants, me tient tellement à cœur qu'on irait mieux en 3 générations. Si on faisait ce travail dès maintenant, je crois vraiment qu'on arrêterait de se taper les uns sur les autres en se critiquant et en pensant que l'autre a raison. Non, l'autre n'a pas raison, il fait comme il veut, et moi je vis ma propre vie. Je peux décevoir, je peux être différent, je peux être divergent, je peux ne pas faire comme les autres, mais je peux aussi créer mon propre chemin de vie. Et c'est ce que je vous souhaite à tous, en fait, de créer votre propre chemin de vie en tant que parents et avec vos enfants, de leur donner l'autonomie et la liberté de devenir qui ils sont déjà.
Séverine, j'adore parler avec toi. On est décidément tellement, tellement sur les mêmes projets, les mêmes envies, les mêmes idées, les mêmes convictions. On pourrait parler heures. Et c'est tellement important de pouvoir faire comprendre de manière mais vraiment concrète que oui, il y a des enjeux, oui, il y a des sujets, mais oui, il y a des solutions et qui sont finalement pas compliquées à mettre en place, voire parfois même toutes simples. Encore faut-il y être sensibilisé.
Et ce que j'aime bien dire à chaque maman, c'est qu'au début, elle me croit l'experte parce que j'ai des connaissances et des formations. Et tu as peut-être entendu ça aussi dans tes différents métiers, mais au bout d'un moment, je leur redonne ce pouvoir-là en disant « Tu es la seule à savoir exactement ce que tu veux en tant que maman. Et tu es la seule à pouvoir connaître ton enfant comme il est vraiment. Moi, je vais pouvoir donner mes impressions, mes hypothèses, parce que j'ai accompagné 600 familles à l'école, parce que là, j'ai 100 de clientes. Mais ton enfant, ton couple, je ne suis pas dans ton cœur et dans ta cheminée et dans ton arc-en-ciel. Par contre, je vais t'aider à le faire toute seule et je vais t'aider à t'autonomiser pour qu'ensuite tu fasses les meilleurs choix. Et justement, ces choix-là ne seront pas les miens, ne seront pas les tiens, ne seront pas ceux de Lise ou ceux de Lauriane. Et justement, c'est ça qui est précieux. C'est qu'en respectant notre enfant, en respectant la citoyenneté et les règles quand même du monde, on va pouvoir créer sur mesure la parentalité qui nous fait du bien. Et c'est ça le but d'une vie, c'est quand même de kiffer sa vie, c'est quand même d'avoir une famille qui, au quotidien, rigole, s'amuse, prend du temps de qualité. Sinon, ça ne sert à rien d'avoir des enfants. On n'a pas fait des enfants pour s'embêter, juste pour cocher des cases. Ce n'est pas pour ça qu'on l'a fait. Mais tous les experts qu'on est là, sur ton compte et ailleurs, On va être des relais possibles si vous en avez besoin un jour. Mais on va être là pour vous autonomiser. Donc, ne comptez pas trop sur nous non plus. On n'a pas la solution magique. Par contre, on va vous amener toute notre expérience, toutes nos formations, et on va se mettre à votre disposition le temps de l'accompagnement. Et ensuite, vous aurez toutes les clés pour faire tout seul. Ça, c'est vraiment très important.
Et j'ai hâte qu'on lance enfin cette fameuse application pour que justement tous les professionnels du bien-être périnatal puissent enfin bénéficier de cet outil. Donc, je sais que vous êtes très nombreux à nous dire quand est-ce que vous lancez. Alors, ça y est, pour de vrai. Donc, on débug, on est en bêta test. Une fois qu'on a les fonds, on lance, on propulse sur les App Store, on met à disposition ce fabuleux outil qui permettra, eh bien, aux futurs et jeunes parents et aux professionnels du bien-être périnatal de se retrouver, de pouvoir mettre à disposition toutes vos offres, vos ateliers, vos accompagnements en ligne, dans la vraie vie, à domicile, dans des lieux dédiés. Séverine, merci de cette discussion. C'était un grand plaisir. Tu m'as donné envie de te consulter moi aussi à titre personnel. Donc, je vais faire appel à toi. Je te rappelle demain.
Mais avec si grand plaisir. Et vraiment, prenez soin de vous, de vos rayures, de vos flammes. Le podcast Les Petits Plus Zen est complètement gratuit. Il y a toujours une partie gratuite. Ce sera pareil sur l'appli aussi. Profitez des outils gratuits. Et si vous pouvez vous le permettre, si vous avez l'élan, venez aussi dans les offres qui vous font résonner, en fait. Si vous en êtes à ce point d'action, pourquoi pas? Je serai ravie de vous accompagner. Merci pour ton invitation, Catherine. Je croise les doigts pour que la fusée soit bientôt lancée.
Elle est dans le hangar. Toute l'équipe est là, comme des cosmonautes, avec les casques sur les genoux, prêts à être enfilés. À très bientôt. Bonne soirée.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Tu peux retrouver les thèmes et les épisodes précédents aussi sur lppzen.com/lepodcast. Pour soutenir mon travail, je t'invite à noter, commenter et partager le podcast, notamment sur ton application préférée, comme Apple Podcast par exemple. Ton soutien est important pour moi, pour permettre à d'autres parents de retrouver la sérénité en famille. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt, et en attendant, prends bien soin de ta cheminée des émotions et de ton arc-en-ciel des besoins. À très vite!